8h30 à Paris, à l'écoute de Radio France Internationale, 2h de moins en temps universel.
RFI Matin.
Et Vincent Dublanche pour l'actualité africaine. Bonjour Vincent.
Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. À la une, la victoire d'Abdelmajid Tebboune à la présidentielle algérienne de samedi. Près de 95% des suffrages exprimés d'après les chiffres officiels. Il suscite des critiques, le taux de participation n'est pas affiché. En faisant quelques calculs, on se rend compte qu'il est autour des 25%. Les Jeux paralympiques et au-delà l'ensemble de la parenthèse festive et sportive de Paris 2024 s'est refermé hier soir. Place à Los Angeles dans 4 ans. On va dresser le bilan avec le président du comité paralympique sénégalais dans cette édition. Dans le journal de 9h, rendez-vous dans la fan zone de l'hôtel de ville de Paris qui avait vécu hier soir la cérémonie de clôture. Également à la une des pluies diluviennes et des inondations qui tuent au sud du Maroc. Région en proie à la sécheresse où les sols sont incapables d'absorber l'eau du ciel. L'alerte du Conseil ivoirien des droits humains contre les agressions homophobes et transphobes qui se multiplient depuis fin août. Et puis notre dossier, rentrée scolaire au Cameroun. Pas de grève cette année, c'est une rareté, mais elle sera perturbée dans les régions anglophones.
En Algérie, les militants du FLN célèbrent la victoire de leur candidat à la présidentielle de samedi.
L'aboutissement de beaucoup d'efforts. L'Algérie sortira toujours vainqueur, disent-ils. Les partisans saluent une victoire écrasante de leur candidat, Abdelmajid Tebboune. Et elle l'est sans conteste, d'après les chiffres officiels donnés par le patron de l'instance électorale. Hier soir, 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, près de 95% des suffrages exprimés. Contre 3 et 2% pour ses deux adversaires, l'islamo-conservateur Abdelali Hassani et le socialiste Youssef Aouchiche. Le parti islamiste, le MSP, parle d'ores et déjà de mascarade, Alexandra Banjon.
Le président de l'autorité électorale, Hani, a annoncé la victoire du président Tebboune avec 94,65% des voix, se félicitant, je cite, d'une élection marquée par une large transparence. Mais l'affluence aux urnes était le véritable enjeu de ce scrutin. Or, sur le sujet, le président de l'Hani est resté vague, évoquant un taux moyen de 48% à la fermeture des bureaux de vote. Le taux moyen n'est pas un taux national de participation, souligne un des responsables de l'opposition, qui ajoute que si l'on compare le nombre d'Algériens qui ont voté au nombre d'inscrits sur les listes électorales, le taux de participation est plus proche des 23%. Un taux faible qui traduit, selon un analyste politique, le désintérêt et le doute qu'ont les Algériens sur les élections. Alors même, selon un autre chercheur, que le président Tebboune est en quête de légitimité pour son second mandat.
Autre voix critique qui s'exprime ce matin, celle de Zoubida Assou, l'avocate de détenus pendant le mouvement de protestation du Irak. Elle a tenté de se présenter, elle a été recalée. Mais pour la présidente du parti d'opposition, l'Union pour le Changement et le Progrès, le président Tebboune n'a, je cite, tout simplement pas de légitimité populaire vu la très faible participation. Une faible participation donc, un score élevé pour le président réélu. Écoutez à ce propos l'analyste politique Brahim Oumansour.
C'est vrai que le chiffre était inattendu, un chiffre très élevé. La réélection d'Abdelmajid Tebboune en soi n'est pas une surprise, mais le pourcentage de sa réélection reste très élevé, ce qui est voulu pour lui donner plus de légitimité. Bien évidemment, la réélection se fait sur un taux de participation qui reste, lui, un peu faible. Donc le chiffre officiel est 48%, et cela traduit bien évidemment un manque d'engouement chez les Algériens vis-à-vis de cette élection présidentielle qui se fait dans un climat répressif avec un espace politique qui reste et médiatique qui reste très verrouillé. Et puis la campagne électorale en elle-même n'a pas suscité en tout cas d'engouement. Elle était d'un niveau assez faible avec 3 candidats. Et il y a eu très peu de meetings, très peu de déplacements, y compris de l'actuel chef de l'État.
L'analyste politique Brahim Oumansour.
Et peut-être le président sortant annoncé réélu félicitera-t-il ces jours prochains les 11 médaillés paralympiques algériens, dont 6 en or.
C'est la nation africaine la plus titrée à ces Jeux paralympiques, Nathalie. Hier, Paris 2024 s'est terminé, s'est ambiancé. Au son de Breakbot et de 23 autres DJ pour passer le relais à LA. Los Angeles 2028, les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Le bilan On y revient. 10 pays africains étaient engagés. 42 pays étaient africains étaient engagés. 10 ont eu une médaille. Ce ne sera pas le cas du Sénégal. Le Sénégal qui n'est pas passé loin. On l'a vécu ce week-end, notamment avec le kayakiste Sanga. Il avait 4 parathlètes, le pays ouest africain. Pour le secrétaire général, chef de mission du comité paralympique sénégalais, Yoro Libel-Nyan, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, pas de médaille donc, mais les athlètes manquent toujours cruellement de moyens, ils veulent souligner.
On peut l'appeler déception, mais aussi c'est une reconnaissance et vraiment on est très fiers d'ailleurs de tous les athlètes qui sont venus ici aux Jeux Paralympiques. On va continuer à travailler, on est très jeunes, on est aux Jeux depuis 2008. On va continuer à travailler, à bosser pour le futur à Los Angeles, montrer que le Sénégal est toujours là. Ça, on peut le considérer comme un lancement. C'est ça la prochaine étape, hein. L'État est conscient de ça, les autorités sont conscientes de ça, c'est ça la suite. Ils seront tous encadrés, bien préparés pour que demain on pourra crier fort que le Sénégal a remporté la médaille. Même si ce n'est pas trop net, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais il y a le minimum que le Sénégal a fait. Maintenant, on va continuer à l'augmenter, à mieux le faire. Chaque mois, ils sont 2 ou 3 qui reçoivent une bourse. Chaque mois, ils ont un accompagnement pour qu'ils puissent venir faire leur préparation à partir de 6 mois des Jeux paralympiques. C'est très insuffisant. On est conscient de cela, mais on va continuer pour que ces athlètes ne viennent plus ici pour être au pied du podium, mais pour jouer les très grands rôles. Et c'est possible. Ils ont le talent et ils ont la compétence. On peut le faire.
Le secrétaire général du comité paralympique sénégalais interrogé par Martin Guez.
RFI 8h36, loin de la ferveur et de l'esprit olympique et paralympique, les belligérants du Soudan continuent de se faire la guerre.
On le disait hier sur RFI, les combats reprennent de la vigueur en ce moment dans la banlieue nord de Khartoum, entre l'armée régulière et les paramilitaires FSR. Hier, des tirs imputés par le réseau des médecins soudanais aux paramilitaires du général Hemeti ont fait 21 morts au moins dans l'état de Sennar. Cette fois, c'est dans le sud-est du Soudan. Il y a 70 blessés. Ils étaient tous rassemblés sur un marché de la ville de Sennar. En Tanzanie, l'effroi après la mort violente d'un membre du parti d'opposition Chadema, Ali Mohamed Kibao, membre du secrétariat national du parti, sévèrement battu, aspergé à l'acide au visage, c'est ce qu'a dit hier le président de Chadema, Freeman Mbowe. Les vies des responsables de Chadema sont en danger en Tanzanie, dit-il. La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, parle de grande tristesse. Elle présente ses condoléances.
L'actualité encore avec ses au moins 11 morts et 9 disparus dans le sud-est du Maroc après des inondations.
Des violentes inondations. L'eau est tombée en trombe sur une zone semi-désertique. Cela dure en fait depuis vendredi, Igor Strauss.
47 mm d'eau en 3 heures dans la région de Ouarzazate, 170 mm près de Zagora, non loin de la frontière algérienne. Ces dernières 24 heures, le sud du Maroc a été touché par d'impressionnantes averses orageuses qui ont provoqué la crue des rivières et des inondations avec un lourd bilan humain. Fin août déjà, d'importantes inondations avaient entraîné la mort d'une mère et de sa fille et provoqué de nombreux dégâts dans la province de Ouarzazate. Selon le porte-parole de la Direction Générale de la Météorologie au Maroc, des masses d'air tropicales humides se sont déplacées vers le nord, rencontrant des masses d'air froid, ce qui a entraîné la formation de nuages instables et violents. Un phénomène inhabituel pour cette région aride qui intervient alors que le Maroc subit actuellement une 6e année de sécheresse consécutive. Confronté au réchauffement climatique, le royaume chérifien doit s'attendre à l'avenir à une recrudescence de ces phénomènes météorologiques extrêmes.
Et le sud de l'Algérie est également touché. D'après la protection civile algérienne, 2 personnes ont porté par les eaux sont recherchés à Taman Rasset. Derrière les précipitations au Sahara, l'ombre du changement climatique, analyse, article de Simon Rosé à lire ou relire sur RFI.fr.
Abidjan 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, des responsables d'organisations défendant les droits des personnes LGBTQ déplorent des dizaines de cas d'agressions à caractère homophobe.
Des agressions verbales, Nathalie, physiques aussi, alimentées par les réseaux sociaux qui visent les personnes homosexuelles et transgenres. Cela fait plusieurs semaines. Jeudi, le Conseil national des droits de l'homme a appelé la population à renoncer, je cite, à l'usage de la violence dans l'expression de son désaccord. Le CNDH dit croire fermement que la protection des droits des personnes LGBTQ peut et doit être menée en respectant les valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. Correspondance, Abdoulaziz Diallo.
Non au Wubi, pouvait-on lire ces derniers jours sur les réseaux sociaux, un terme qui désigne les personnes homosexuelles ou transgenres. Selon les ONG locales, au moins une trentaine de cas d'agressions homophobes, physiques et verbales ont été enregistrés ces derniers jours dans le pays. 5 plaintes contre X ont d'ailleurs été déposées pour coups et blessures ou injures. Les activistes de la cause LGBT affirment être contraints de se cacher, craignant pour leur sécurité. L'un d'entre eux accepte de témoigner sous anonymat.
Certains ont été agressés, chicotés, bafoués dans leur dignité parce que on les a mis tenus, on reçoit des appels de menaces de mort, on nous recherche de partout, il y a des photos et des logos des structures qui sont vulgarisées sur les réseaux sociaux.
En Côte d'Ivoire, la loi ne pénalise pas l'homosexualité, contrairement à de nombreux pays africains. Interrogé sur ses agissements à l'issue d'un conseil des ministres, le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, fait des clarifications.
Nul n'a le droit de se faire justice. Les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. La Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est un homme et c'est une femme.
Fin 2021, la question de l'homosexualité avait surgi dans le débat public après de vifs échanges à l'Assemblée nationale. La mention de l'orientation sexuelle comme motif de discrimination avait été retirée du code pénal. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
RFI, le dossier de cette édition nous conduit au Cameroun, Vincent, pour parler de la rentrée scolaire.
Oui, rentrée toujours complexe dans le pays après des années de tensions sociales, avec notamment le mouvement On a trop supporté OTS, et puis l'instabilité et l'insurrection séparatiste dans les régions principalement anglophones. Plus de 3 millions d'élèves du primaire et du secondaire doivent reprendre normalement aujourd'hui le chemin des classes. Une rentrée que le gouvernement camerounais espère un peu plus apaisée, Polycarpe Samba.
Pour ce lundi de rentrée des classes, aucun syndicat enseignant n'a appelé à la grève. Les enseignants sont donc attendus à leurs postes respectifs, même si avancent-ils, leurs revendications sont pour l'essentiel toujours d'actualité. Nous voulons donner une chance au gouvernement de faire montre de sa bonne foi dans la prise en compte de nos problèmes et surtout de leur résolution, déclare Tenkeng Samori Touré, porte-parole du mouvement OTS qui évoque une sorte de trêve dans les opérations de blocus des enseignements avec diverses actions soutenues par un chapelet de revendications touchant aussi bien à leurs conditions de vie que de travail. Très attendu, l'élaboration du statut de l'enseignant dont ils espèrent qu'il soit discuté au cours du Forum national d'éducation annoncé et promis par le gouvernement pour avril 2024, mais qui se fait toujours attendre. Pour les syndicats des enseignants, la date butoir raisonnable pour la tenue de ces assises, c'est fin décembre. Au-delà de cette date, et si rien n'est fait, les syndicats et le mouvement OTS indiquent qu'ils pourraient être obligés de tomber à nouveau la craie. À scruter également au cours de cette rentrée scolaire, la situation dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans lesquelles l'éducation des enfants partie du contexte de crise sécuritaire qui y prévaut. Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
Effectivement, Polycarpe le disait, la crise dans les deux régions à majorité anglophone de l'ouest du Cameroun, les groupes séparatistes imposent un confinement pour les deux semaines à venir, de nombreux parents n'osent pas envoyer leur enfant à l'école. Ces tensions se répètent depuis 2016 au moment de la rentrée et c'est ce que regrette Valentine Sema, il préside le syndicat des enseignants du Cameroun.
Cela fait presque 8 ans que la crise a débuté dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, dans le cadre de la lutte pour la réforme du système éducatif, et plus particulièrement celui du système éducatif anglais. Depuis, les enseignants de ces deux régions font l'objet de très sérieuses menaces. Nombre d'entre eux ont perdu la vie, ont été kidnappés. Un confinement nous a été imposé pour environ 2 semaines. On n'est pas censé aller à l'école, les enfants doivent rester à la maison, ils ne pourront commencer les cours qu'à partir du 2 octobre. C'est vraiment très perturbant pour nous, vraiment très très inquiétant pour nous. L'école devrait être un endroit libre. L'environnement scolaire, les apprenants, les enseignants ne devraient être soumis à aucune forme de menace ni de préjudice.
Propos recueillis par Wally Diallo. Un mot de foot, de sport éliminatoire de la CAN 2025, ça continue. La deuxième journée avec notamment aujourd'hui Burundi-Sénégal à 13h TU, Niger-Ghana également à 15h temps universel, Nathalie Amar.
C'était Vincent Dublon. Merci à vous et à tout à l'heure. 8h44 à Paris.